Bienvenue sur Oser Marketer, le podcast qui t'aide à oser, à créer et à te faire évoluer chaque jour. Que tu fasses tes premiers pas dans le marketing ou que tu sois un expert aguerri, tu trouveras ici des actions concrètes à intégrer à ta stratégie digitale. Je suis Manon Rock, cofondatrice de l'agence UGC Cosmi. Ma volonté est d'avoir une approche novatrice en vulgarisant la création de contenu. Ta marque mérite de briller. Alors, es-tu prêt à oser ? Hello la Team Podcast, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser Marketer. Aujourd'hui, je suis avec Leslie, créatrice de contenu. Leslie, comment tu vas ?
Bien et toi ?
Bah écoute, super, merci beaucoup de venir aujourd'hui raconter ton histoire dans Oser Marketer. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux gens qui nous écoutent ce que tu fais ?
Alors, aujourd'hui, je suis créatrice UGC, donc à temps plein. Je crée du contenu donc pour différentes marques et notamment surtout pour les publicités des marques qu'on peut retrouver donc sur les réseaux sociaux. Et donc, je vis de ça à l'heure actuelle et que ce soit ici ou ailleurs.
Et comment, en quoi ça consiste surtout de créer des vidéos pour les publicités des marques ? Concrètement, toi, qu'est-ce que tu fais pour les marques ?
En fait, l'utilité d'utiliser l'UGC en fait pour les marques, c'est d'avoir du contenu qui est plus engageant, plus authentique et qui permet en fait aux clients ou aux futurs consommateurs prospects ils vont simplement se retrouver en nous dans les vidéos parce que ces vidéos-là sont faites par monsieur et madame tout le monde.
Exactement, c'est du contenu incarné par un potentiel consommateur de la marque et c'est pour ça que ça fonctionne super bien, c'est parce que comme tu l'as dit, on a ce côté un petit peu humain. Et comment tu t'es lancée, comment t'as découvert au final l'UGC ?
Alors c'est une copine qui m'a présenté le concept, ça fait déjà plusieurs mois qu'elle faisait ça et elle gagnait déjà sa vie avec ça et c'est vrai que moi à l'époque j'étais dans l'immobilier, j'en avais un petit peu marre du salariat, ça faisait bien des années maintenant que j'en avais marre du salariat et que je cherchais une solution pour pouvoir vivre de ce que j'aime faire tout en n'ayant aucune contrainte. Et du coup, quand elle m'a parlé de ça, forcément, idée super alléchante, on reçoit des produits gratuitement chez soi et en plus de ça, on te paye pour donner ta review. Donc, ok, let's go.
Que demander de plus au final.
C'est ça. Et du coup, forcément, quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, ok, idée de fou, comment on fait ? Explique-moi, je veux en être.
Et c'était il y a combien de temps ?
C'était au mois de septembre.
Ok, donc là, ça fait déjà 6-7 mois, en gros, que tu fais de l'UGC.
C'est ça.
Ton expérience, comment tu vois l'évolution au début ? Comment tu faisais pour créer tes contenus ? Est-ce que tu as repéré, tu vois, quelques axes que tu as directement améliorés ? Comment a été ta progression ces 6 premiers mois ?
Alors, je pense que ce qui était le plus dur pour moi au début, c'était l'image de moi-même. Devoir me filmer.
C'est trop dur.
On était là, oula, attends, mais en fait, faut que je monte ma tête.
Ouais.
Après, une fois que, bon, au fur et à mesure qu'on se filme, en fait, on se familiarise plutôt bien. Hein, on a l'habitude de se voir. En fait, on n'avait plus l'habitude, je trouve, avec les réseaux sociaux, de se voir sans filtre.
Ouais.
Face à face et au fur et à mesure, finalement, on s'y habitue, on se dit qu'on n'est pas si mal que ça et que de toute façon, c'est ce que les gens recherchent, donc c'est que ça plaît. Et du coup, c'était surtout ça qui était dur au début, en fait. Et au fur et à mesure, donc, je me suis familiarisée avec, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait certaines intonations, certaines phrases ou certaines... rien que même certains onomatopées parfois que je pouvais faire qui rendaient la chose plus naturelle et plus authentique. Et en fait, c'est à force de collaboration qu'on finit par s'améliorer, qu'on finit par prendre le truc en fait, par comprendre comment ça fonctionne et à se mettre aussi nous-mêmes à la place du consommateur et se dire qu'est-ce qui fonctionne chez moi, donc qu'est-ce qu'il faudrait que je reproduise pour que ça fonctionne chez les autres.
Ouais, ça c'est hyper important de se mettre à la place du consommateur pour savoir ce qu'il aimerait entendre pour potentiellement acheter ce produit. Et je te rejoins sur ce que tu disais au tout début, c'est vrai que se voir, moi je tourne pas des vidéos UGC, mais je tourne pas mal d'autres vidéos ou des podcasts, etc. Et c'est vrai que le retour image est très gênant, tu ne t'apprécies pas forcément. Mais après c'est vrai que tes défauts, toi tu vas rester focus dessus, mais la plupart des gens ne vont pas du tout remarquer ça et ils vont plus s'intéresser à ce que tu racontes que qui tu es physiquement. Donc c'est vrai qu'il faut réussir à se détacher, mais c'est un gros travail à faire sur soi. Et c'est vrai que la création de contenu UGC, si t'es pas vraiment à l'aise avec ton image, c'est un petit peu compliqué au début.
Ouais.
Et est-ce que toi, t'avais déjà des notions en montage vidéo ou t'as vraiment appris sur le tas ?
Alors, j'avais des... Enfin, J'avais déjà des notions. C'est assez gros de dire, mais j'ai toujours adoré, en fait, faire des montages de films de mes vacances. J'ai toujours celle qui dégainait le petit téléphone, la petite GoPro pour filmer et avoir des jolis clips tournage. D'ailleurs, j'ai encore des vieilles vidéos de multiples vacances où j'étais là avec ma petite GoPro en train de filmer un passage. Du coup, j'avais ces petites bases-là. Et le reste, après, je pense que sur ce côté-là, j'ai été plutôt débrouillarde parce que j'ai directement compris en fait qu'il fallait quelque chose de dynamique avec des plans coupés, beaucoup de plans coupés parfois. Et une fois qu'on a compris ce petit truc, bah ça va beaucoup mieux. C'est plus facile en fait de gérer les montages et ça prend moins de temps que ce que ça pourrait nous prendre au début.
C'est intéressant. Est-ce que tu penses qu'il faut vraiment avoir un attrait pour la création de contenu pour se lancer dans l'UGC? Ou alors tu penses que quelqu'un qui, justement, bah, quand elle était plus jeune, qui n'a jamais pris son téléphone un peu en vacances pour créer du contenu, qui n'a jamais touché au montage, peut aussi se lancer?
Alors, je pense, ah, c'est dur.
Ouais.
C'est un peu mitigé. Parce que d'un côté, j'ai envie de dire qu'il faut tout de même avoir cette fibre, avoir cette envie et ce désir de créer quelque chose. Et d'un autre côté, c'est un corps de métier, parce que ça fait partie des nouveaux métiers, qui est tellement accessible à un large type de personnes que j'ai envie de dire un peu des deux, en fait. Il faut juste de la volonté. Quoi qu'il arrive, de toute façon, dans tous les domaines, j'ai envie de dire, il faut de la volonté. À partir du moment où on l'a, ça suit. Donc,
très bon mindset.
Les compétences suivent.
Mais je pense qu'il faut quand même avoir un minimum de notions dans le social media pour ne pas trop galérer.
Ouais.
Exactement. Et c'est vrai que la plupart des personnes qui sont passées dans Oser Marketer avaient ce truc de « je ne m'y connaissais pas trop en montage, en création de contenu, mais j'adorais prendre des petites vidéos par-ci, des petites vidéos par-là, etc. » Et c'est vrai que tous les créateurs avec lesquels j'échange, ils ont quand même cet attrait pour la création de contenu, même s'ils ne sont pas du tout pros. Hein. Il y en a qui m'ont dit, mes premiers montages, franchement, ils étaient vraiment éclatés, c'était vraiment très, très nul. Mais en tout cas, j'aimais le faire. Et je pense que ça doit être le moteur. Je pense que tu dois plus vouloir monétiser ta passion que faire de la création de contenu pour gagner de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une petite différence. Parce que c'est vrai que c'est un métier quand même qui est compliqué, qui est prenant. Quand je dis compliqué, c'est au niveau de la créativité quand même, il faut avoir une bonne dose de créativité, il faut connaître les codes des réseaux sociaux, il faut aussi montrer son image comme on le disait, c'est un métier où t'as pas forcément d'horaire, etc., où t'as pas de cadre.
Il peut donner de sa personne. Hein.
Exactement, donc c'est pas fait pour tout le monde, et si on le fait que pour l'argent, je ne suis pas sûre que ça fonctionne.
Ou du moins ça fonctionne peut-être au début, mais ça dure pas sur le long terme.
Exactement. Et toi, tu nous parlais justement de contraintes. Tu as arrêté le salariat pour ça. Quelles étaient les contraintes selon toi du salariat?
Alors, pour moi, c'est toujours être... pour moi, le salariat, ça a toujours été une sorte de petite case. On se met dans une petite case et puis tu dois rester dans cette petite case. Tu dois en faire, mais bien le faire, sans trop en faire pour autant. Ta rémunération, elle évolue certes, mais pas de 1200. Et en fait, tu n'es pas dépendant de ta rémunération, de ton emploi du temps. C'est pas toi qui choisis, en fait. Alors que l'entrepreneuriat et la création de contenu, notamment la création UGC, tu fais tout toi-même, en fait. Certes, ça a des avantages et des inconvénients. T'en as beaucoup qui disent on quitte le 9h-17h pour des super horaires. Pas du tout. Comme ils disent les vrais auto-entrepreneurs et grands entrepreneurs, si tu quittes ton 9h-17h pour retrouver des peut-être 9h, 3h du matin.
Et il n'y a pas que les auto-entrepreneurs, hein. Les entrepreneurs aussi, tout court,
voilà.
Ont fait des horaires de malade.
Exactement. Mais du coup, c'est vrai que c'était cette case dont j'avais envie de sortir de cette case, en fait. J'avais envie de vouloir faire les choses pour moi, travailler pour moi, pour ma réussite et pas pour la réussite de quelqu'un d'autre.
Trop bien. Et tu parlais au tout début du podcast, tu disais que tu le faisais partout. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu entends par partout?
Alors, c'est vrai que un des principes, on va dire, de l'UGC et de l'entrepreneuriat en lui-même, c'est de pouvoir avoir une liberté géographique qui est assez, assez sympa, on va dire. Mmh. Et c'est vrai qu'au début, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien voyager, j'aime bien aller à droite, à gauche, tout en ayant un chez moi, mais j'aime bien pouvoir voyager. Et c'est vrai que voyager, bah, non seulement de un, ça coûte de l'argent, et c'est surtout que quand on est sous contrat avec quelqu'un, bah, on ne peut pas dire « demain, je pars ».
Ouais, allez, bye bye, j'y vais.
Excusez-moi, je prends une semaine de vacances, je ne prends pas votre avis, j'y vais. C'est pas possible, alors qu'avec l'UGC, bah, c'est beau parce que c'est réalisable en fait.
Donc toi, tu ressentais ce besoin dans ton travail, dans ton milieu professionnel, de pouvoir voyager et sur un coup de tête, de pouvoir aller visiter un pays, tout en gardant tes projets.
Tout à fait. En fait, pour moi, limite, la liberté géographique, elle avait plus de valeur que la liberté financière.
Ok. Et du coup, avec l'UGC, donc, tu as trouvé la liberté géographique et la liberté financière ?
Presque financière, mais pas encore.
Et aujourd'hui, tu vis pas de l'UGC ?
Si, je vis de l'UGC, mais après, bon, j'ai des exigences qui sont propres à chacun, mais voilà, j'aimerais atteindre des paliers que j'ai pas encore atteints. Mm-hmm. Mais je vis vraisemblablement très bien avec l'UGC.
Trop bien, bravo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces paliers ? Donc toi, tu as commencé en septembre. À partir de quel moment tu as fait de l'UGC ton métier ? Combien à peu près gagne un créateur UGC par fourchette, par mois au début, puis maintenant, 6 mois plus tard, une fois que tu t'es un petit peu professionnalisé. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça ? Parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les personnes qui aimeraient se lancer.
Alors, pour être honnête, mes 2 premiers mois, j'ai tourné... Alors, je ne sais pas si c'est de la chance, oui et non. Hein, pour moi, on se crée notre chance parfois.
Je suis d'accord.
Mais voilà, le premier mois du GC, j'ai réussi à faire un complément de 700 euros.
Très bien.
J'étais quand même assez fière de moi. J'avais travaillé déjà avec des belles marques. Du coup, je me suis dit, bon, ça va me faire un joli portfolio. Et le mois d'après, ça s'est un peu plus concrétisé parce que j'ai fait 900 euros.
Okay.
Donc là, j'ai commencé à réaliser, à me dire, ok, d'accord, il y a vraiment quelque chose qui est pas mal à faire.
Et tu avais toujours ton emploi, du coup, à côté ?
Oui.
Ok.
Et du coup, à partir du moment où j'ai vu que ça pouvait être intéressant, mais qu'il me manquait du temps, bah du coup, j'ai mis cet emploi de côté et je me suis mis à 100% du coup dans l'UGC. Et là, aujourd'hui, du coup, à l'heure où je te parle, j'ai fait donc ce mois-ci mon plus gros mois qui est à 2200 euros.
Trop bien. Et le mois n'est pas terminé.
Il est toujours en cours.
Exactement.
Et je dirais que ce qui change entre mes débuts et maintenant, c'est... alors, c'est apprendre à... Ce que je dis, faut pas le prendre. Enfin, faut mettre des précautions en sens que je dis parce que voilà, je trouve que il faut jamais en tant que prestataire de service, peut-être au début oui, mais après non, baisser ses prix. Il faut connaître sa valeur, la valeur de son travail, il faut savoir ce qu'on fournit, l'effort qu'on fournit, le travail qu'on fournit, on y met de soi-même. Et parfois, il ne faut pas avoir peur de laisser passer certaines occasions parce que, bah non, je ne ferai pas une vidéo pour 90 ou 80 euros, c'est pas représentatif de mon travail. Donc, je laisse passer cette opportunité et puis qui sait, peut-être qu'ils me recontracteront d'ici... quelques mois parce qu'ils auront les moyens de mettre plus de budget et d'investir dans les créateurs qui créent leur contenu. Mmh. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup changé parce qu'à l'époque, je prenais énormément de contrats pour des petits montants. Et maintenant, cette liste de noms de marques pour lesquelles j'ai travaillé, elle est moitié moins de ce que j'avais au mois au début. Mais pour autant, le montant à la finalité est quand même... beaucoup plus élevé que ce que j'avais.
Très intéressant.
Et pour moi, c'est important bien évidemment, il faut se professionnaliser, hein, faut pas, voilà. Mais pour moi, c'est important de pas toujours baisser ou céder sur les prix parce que les marques disent « Ah, mais on n'a pas beaucoup de budget, etc. etc. » je pense que dans l'univers, entre guillemets, du marketing, on n'est pas tous bêtes. On sait approximativement le montant que certaines marques vont débourser de façon journalière pour les pubs. Mm-hmm. Donc, on sait que parfois, bah oui, d'accord, vous n'avez peut-être pas le bon budget au bon endroit. Alors, mais du coup, il ne faut pas avoir peur pour moi de refuser certaines opportunités parce que plus tard, sur le long terme, entre guillemets, ça finira par revenir.
Donc toi, la stratégie, pour résumer, n'a pas été de prendre plus de clients, mais plutôt d'augmenter tes tarifs pour arriver à quelque chose qui correspondait en tout cas à la valeur de ton travail.
Tout à fait.
Hyper intéressant. Et pour nuancer un petit peu les propos que tu disais, parce que je suis totalement d'accord avec toi, et il y a aussi un petit peu l'effet inverse. Moi, je vois beaucoup de créateurs qui débutent, qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas de vidéo, etc., et qui se calent sur les mêmes tarifs que des créateurs un petit peu plus expérimentés. Et du coup, bah, c'est dommage parce que ça vient un petit peu casser aussi tout le milieu. Parce que, bah, en tant que marque, on va voir des créateurs qui coûtent le même prix, par exemple 180 € une vidéo ads. On va avoir deux créateurs qui coûtent 180 €, mais la qualité du contenu ne va pas être la même. Tout simplement parce que le créateur débutant a vu le créateur expérimenté avoir ces prix-là et du coup a voulu se baser sur les mêmes prix, sauf que la qualité de la vidéo n'est pas du tout la même.
Bien sûr.
Donc il faut faire attention à bien se calibrer. Ce que disait Leslie, ce n'est pas de vous mettre cher ou en tout cas à la valeur du marché ou lisser vos prix par rapport aux autres, c'est plus par rapport à votre contenu, par rapport à vous, à votre expérience, à votre expertise aussi, à votre qualité de montage, à votre session de droit, etc. Donc, ne pas, par exemple, si vous regardez ce podcast, si vous débutez, c'est votre première vidéo, vous mettre sur les mêmes prix de Leslie. Que Leslie, pardon, si vos vidéos ne sont pas de la même qualité. C'est aussi important pour que le secteur bah, ne dégringole pas et qu'il y ait une cohérence en termes de prix aussi.
Bien sûr.
Et toi, du coup, comment tu as fait au tout début pour avoir tes premières collaborations? Est-ce que tu avais un portfolio? Est-ce que tu es allé démarcher des marques? Est-ce que c'est les marques qui t'ont démarché? Comment ça s'est passé?
Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé dans mon portfolio, pour être très honnête, je devais avoir peut-être 3 vidéos. J'avais pris 3 produits, un dans ma cuisine et 2 dans ma salle de bain.
Donc
Et
des
je me suis
fausses
fait.
vidéos.
Voilà, et je me suis fait, allez, allons-y, on se tente, on essaye de créer ce qu'on appelle un script, et on tourne. Et je suis partie donc avec ces 3 petites vidéos dans ma valise, et je me suis inscrite sur les applications.
Ouais, tu peux en citer quelques-unes, comme ça les créateurs vont pouvoir
Bien
s'inscrire
sûr.
également.
Alors, au tout début, donc celle qui a le plus fonctionné pour moi, c'est Influi. Donc, je suis passée par Influi, je me suis inscrite sur Fiverr, sur Yuji aussi. Et encore à l'heure actuelle, celle qui, à mon sens, fonctionne en tout cas le mieux, c'est la plateforme Influi. C'est celle sur laquelle il y a. Enfin, c'est tout feu, tout flamme avec eux parce que malheureusement, il y a un budget, entre guillemets, qui a été donné de la part d'Influi pour les créateurs français qui ne sont pas du tout réels. J'ai vu récemment une vidéo Ads 2 qui dit qu'ils ont pu obtenir 10 vidéos UGC pour 35 €.
10
Bon,
vidéos UGC pour 35 €?
moi, je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir
Ah
ce
ouais.
chiffre-là, mais bon, qui fait que parfois, c'est un petit peu compliqué d'avoir des deals sans avoir tout le temps une marque qui va venir négocier tout le temps au plus bas.
Bah, tu m'étonnes, à 3,50 la vidéo.
C'est bénéfique, hein, on dit, c'est très, je pense que c'est rentable, hein.
Bah, ça coûte moins cher qu'un coca, quoi.
C'est ça. Mais du coup, ouais, c'était sur moi, donc Influi, j'ai commencé à avoir des petits deals. J'ai commencé même, j'avais fait 2 ou 3 collaborations en gifting volontaire. C'était moi qui avais mis le free product parce que de un, le produit m'intéressait et de deux, je m'étais dit, bon, de toute façon, il faut que j'ai des vidéos de qualitative et de
À
grande marque
présenter,
dans mon portfolio. Donc, quoi qu'il arrive, il me les faut. Donc, si en plus de ça, je peux recevoir le produit gratuitement et
C'est
avoir un
bénef.
brief détaillé, let's go. Et pour moi, justement, je trouve que c'est positif de pouvoir commencer à créer son portfolio en ayant ce genre de collaboration parce que ça nous permet à nous d'intégrer la marque dans notre portfolio et à eux d'avoir des vidéos bah, d'une certaine qualité, certes, mais de pouvoir quand même avoir plusieurs créateurs pour des prix assez bas finalement.
Complètement. Tu fais un premier pas dans l'UGC, c'est comme ça que tu te crées ton expérience.
Exactement. Et donc, du coup, j'ai commencé comme ça en faisant plusieurs deals sur Influi. Ensuite, quand j'ai commencé à avoir un portfolio un petit peu plus fourni, je me suis dit, bon, intéressons-nous aux agences. Et du coup, ma copine qui m'avait mis donc dans l'UGC, qui d'ailleurs s'appelle Marjorie Robin, hein, on peut lui faire un petit coucou.
Ouais, on peut lui
Je
faire
pense
coucou.
qu'elle va écouter ce
Coucou
podcast.
Marjorie.
Elle m'a du coup donné le nom des agences dans lesquelles elle était. Et du coup, bah, j'ai aidé sur les petits sites, j'ai regardé, j'ai trouvé les petites adresses ou les petits Google Forms, et puis bah, j'ai rempli, j'ai fait mon petit bout de chemin. Et finalement, bah, ça a pris. Donc, bon, c'est que je me suis dit, en fait, c'est que mon travail, est pas si mal. Donc, bah, continuons. Donc,
Trop
voilà.
bien. Et du coup, toi, tu n'as jamais démarché de marque de ce que tu nous dis. C'est ouf. Donc, juste avec les agences et les plateformes, t'as tout, enfin, t'as tes collaborations.
Oui, en fait, j'étais très... Pour être totalement honnête, j'ai, en fait, je gère le compte d'Instagram d'une marque.
Ouais.
Et, enfin, d'une jeune start-up française. Et en fait, je vois, moi, en tant que petite, entre guillemets, community manager, je vois tous ces messages récurrents de créatrices, de créateurs UGC qui envoient toujours la même chose. Et dans ma tête, c'était la hantise.
Ouais,
le truc à pas refaire. Du coup, c'était en fait, ça m'a arrangé d'une façon que ça fonctionne d'une autre manière, parce que c'était vraiment la prospection, c'était quelque chose que j'avais pas du tout envie de faire en fait. Donc voilà.
Et aujourd'hui, tu as combien de demandes entrantes par exemple par semaine ou par mois?
Alors, ça dépend. En général, je tourne. Bah, attends, tu sais quoi, on va aller en direct sur mon téléphone.
Allez.
Regardons ce que me dit mes petites notes. Par exemple, là, du coup, pour le mois de janvier, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marques accompagnées.
Pas mal, pas mal.
Donc, voilà, dont une qui est un partenariat long terme.
Trop bien.
Et mensuel. Mais voilà, en général, ça tourne toujours aux alentours de entre 7 et le plus gros 10 marques accompagnées par mois.
Ok. Et pour du mensuel, du coup, c'est combien de vidéos par mois à peu près?
Alors, ça dépend beaucoup, mais je dirais que la plupart de ces personnes demandent entre 2 et 3 vidéos. Donc, la plupart des marques, pardon, demandent entre 2 et 3 vidéos. Donc, après, bon, ça dépend, on fait un calcul très simple. Mais voilà, après, ça dépend du contrat, ça dépend du budget qu'ils ont à mettre aussi dedans. Et voilà.
Bah, écoute, c'est pas mal, hein. Franchement, 10 vidéos par mois avec ton chiffre d'affaires, c'est plutôt sympa. Ça te prend combien de temps, toi, en général, de faire une vidéo?
Alors, généralement, je me bloque une demi-journée pour filmer la vidéo.
Ok.
Et une autre demi-journée pour m'occuper du montage.
Trop bien. Bon, après, à chaque fois, c'est toi qui fais les montages ou il y a certaines agences comme nous, par exemple, Cosmi
Alors, vous, voilà, vous faites directement. Donc, en fait, à la limite, ce que je fais dans ce genre de moment, c'est qu'en fait, je passe, donc je m'occupe l'après-midi donc, des tournages parce que c'est là où la lumière est plus jolie chez moi. Mm-hmm. Et quand, du coup, j'ai fini toute cette phase de montage, bon, généralement, je mange, je fais ma vie. Et le soir, avant d'aller me coucher, en fait, ce que je fais, c'est que je me bloque 45 minutes pour, en fait, trier mes rushs,
ouais, trier les rushs, ouais.
Voir les fournir correctement à la marque. Mais bon, le triage de rush, qu'on se le dise et qu'on soit honnête, ça prend beaucoup moins de temps qu'un montage. Hein.
Évidemment, voilà. Évidemment.
Donc, du coup, voilà, en fait. Et après, une fois que j'ai trié les rushs, bah, je l'envoie directement à l'agence et c'est eux qui gèrent le montage.
Ok. Et il y a d'autres agences avec lesquelles tu collabores qui font comme nous, justement, au niveau du montage, on est les seuls
Alors, bah, en fait, toutes les agences avec lesquelles... Je mens. alors, donc, il y a vous, il y a Chaser et Attitude, avec mm-hmm. qui, du coup, je ne m'occupe pas des montages, en fait. J'ai mm-hmm. juste les rushs à tourner, ni des montages, d'ailleurs, ni du scriptage.
Ni du script, ouais, c'est vrai.
Et la seule pour laquelle c'est moi qui m'occupe, du coup, du script et du montage, c'est Takema.
Ok.
Voilà, qui est... bon, après, c'est une agence, mais elle a un système de fonctionnement qui n'est pas du tout similaire au vôtre, hein, pour mm-hmm. vous. Mais voilà, c'est la seule agence, enfin, considérée comme agence pour laquelle j'effectue les montages.
Ok, hyper intéressant. Et pour revenir un petit peu sur la partie digital nomade, comment toi tu fais aujourd'hui pour organiser ton temps, pour organiser ton travail quand tu es à l'étranger ou en voyage?
Alors, ça, c'est une très bonne question. Parfois, c'était un peu dur. Là, je suis partie en fin d'année 2023 à Bali.
Ouais.
Bali, bon, c'est de l'autre côté. Hein.
Et oui.
En plus,
décalage horaire.
Voilà, on est parti au moment où il y avait, en plus de ça, le changement d'horaire en France, qui fait que mm-hmm. ce n'était plus 6, mais plus 7 heures de décalage. Donc,
sympa.
Ça faisait soit des nuits tardives,
soit des matinées très tôt.
Et pas de choix. Du coup, c'était un petit peu compliqué parfois, mais sinon, en général, en fait, à partir du moment où on s'impose, on va dire, un rythme de vie assez strict, j'ai envie de dire, on sait s'y tenir. Moi, je savais que tel jour, tel après-midi, telle soirée ou quoi, je savais ce que j'avais à faire. Je savais que quoi qu'il arrive, je le faisais. Certes, bon, bah, mes copains, ils avaient envie d'aller voir le sunset. Bah, ils allaient voir le sunset, c'est pas grave. Parfois, j'étais partie avec Marjorie. Donc, parfois, avec Marjorie, bah, on restait, on tournait nos petites vidéos.
Ah, c'est pas mal, vous étiez deux à faire de la création de contenu. Exactement. Donc, au moins, vous avez un petit soutien l'une et l'autre.
Oui,
c'est
ça. Et du coup, ça nous permettait quand même de profiter de Bali.
Ouais. Ton temps, il était divisé comment? C'était plutôt un jour création de contenu, un jour visite, ou alors c'était plutôt matin visite, après-midi création de contenu? Comment ça se passe?
Alors, c'était très varié. Je dois bien l'avouer que parfois, c'était un petit peu n'importe quoi.
Ouais, tu m'étonnes.
Mais non, en fin de compte, on donnait toujours priorité au travail quand il y en avait. Mais généralement, on gardait quand même ce rythme de... Comme on est resté un mois, on gardait ce rythme de semaine travail.
Ouais.
Le week-end, on partait à droite, à gauche, visiter les quatre coins de Bali. Et je trouve qu'on s'en est quand même... ce rythme nous allait quand même plutôt bien.
Et t'allais dans des endroits un petit peu coworking, etc., pour avoir un cadre, ou alors t'es resté dans la maison que vous aviez louée?
Alors là-bas, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des warung.
Ouais.
C'est donc des cafés avec du wifi comme ça, hein, il est là. Et du coup, ça nous arrivait, ouais, d'aller travailler là-bas, surtout pour nos montages, pour avoir un cadre un peu plus pro, quoi.
Parce que c'est vrai qu'en Thaïlande, bon, je te l'apprends pas, mais t'es pas la seule à être digital nomade. Est-ce que t'as rencontré justement un peu des gens comme vous, qui étaient un peu globetrotters, créateurs de contenu?
Alors oui, beaucoup de Français, et en fait beaucoup de personnes qui, comme nous, ont la chance de pouvoir faire ce qu'ils aiment un peu partout dans le monde. Donc oui, on a rencontré pas mal de belles personnes qui, eux, par contre, restent là-bas. Ils ont décidé de pas revenir en France. Mais qui avait le même principe que nous.
Et du coup, après Bali, toi, tu souhaites partir où? Est-ce que tu avais d'autres destinations, d'ailleurs, après Bali?
Alors, j'ai été à New York.
Ok.
Les fêtes de fin d'année. Mais bon, on n'y est pas resté très, très longtemps. Et c'est une semaine où j'avais décidé
de couper.
Voilà, j'avais cette chance de pouvoir couper. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et la prochaine destination, bah, on ne sait pas encore, on se tâte. On pense qu'on va retourner à Bali peut-être 2 mois cette fois-ci.
Ok.
Parce qu'à Bali, il y a énormément de choses à faire, à visiter. Et du coup, on a bien envie d'y rester un petit peu plus longtemps.
Et est-ce que quand tu es à l'étranger, ça t'inspire aussi pour la création de contenu? Est-ce que tes sens un petit peu créatifs sont plus éveillés?
Grave. Ouais. de toute façon, en général, hein, les beaux paysages, c'est toujours des endroits assez, assez inspirants. Et d'ailleurs, c'est là-bas que j'ai pris la décision moi-même de commencer à développer mes réseaux sociaux.
Okay.
Là, je suis en train de faire un préparage de fond avec une armada de Reels, de TikTok.
Trop bien. Sur quel sujet? Le voyage?
Un peu tout. Je me suis dit du voyage, du lifestyle, du quotidien, de la vraie vie.
Trop bien.
Et du coup, je commence à préparer ça en amont pour pouvoir être assez assidue après. Je prends de l'avance. Mais ouais, c'est sûr que ça booste la créativité d'être dans ce genre d'endroit.
Clairement. Et toi, t'aimerais bien à terme, vu que là, t'es en train de développer tes réseaux, pourquoi pas pouvoir vivre aussi de l'influence et créer une communauté sur les réseaux Instagram, TikTok?
Tout à fait, ouais. C'est quelque chose qui me... Au début, c'était pas forcément parce que ça m'intéresse pas plus que ça d'être connue, en fait. Mm-hmm. J'ai aucun intérêt à être connue. Mais c'est le fait de pouvoir partager des choses que j'aime avec d'autres personnes et pouvoir... Pourquoi pas trouver des centres d'intérêt avec quelqu'un d'autre que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam et qui a débarqué dans ma vie parce que j'ai posté une vidéo et qui fait la même chose. C'est ce principe-là, en fait, que j'aime bien, de pouvoir partager ça.
Développer une communauté, après, si tu veux monter d'autres projets, etc., c'est quand même hyper intéressant parce que tu as des personnes qui te soutiennent et ça, c'est trop cool. Non. Et en plus de ça, ça peut aussi ouvrir des portes sur des partenariats rémunérés avec des marques hyper intéressantes. Donc, on va pas cracher sur ça. Aujourd'hui, en 2024, il y a tellement de personnes qui peuvent vivre des réseaux sociaux. Pourquoi s'en priver, tu vois?
C'est une vraie chance d'avoir les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui le... Il y a des aspects positifs et négatifs, mais il y en a beaucoup qui le diabolisent, surtout une certaine génération qui le diabolise parce qu'ils en ont peur, en fin de compte. Mais ça fait partie des nouveaux métiers, et les nouveaux métiers, il faut s'adapter. Hein. Si à 20 ans, on disait à nos grands-parents que plus tard, on paierait avec notre téléphone, ils nous auraient regardé avec des yeux qui louchent. Hein.
Ah ouais, non mais complètement, mais... Imagine quand j'explique à ma grand-mère mon métier. Donc, je vends des vidéos de personnes qui incarnent des marques avec des produits et après on les met en pub. Compliqué.
T'inquiète pas, j'ai fait la même chose avec ma grand-mère et elle est même apparue dans une vidéo.
Ah, pas mal.
Elle
cherche
disait
parfois
même, mais ma fille, qu'est-ce que tu me fais faire?
Tu m'étonnes, mais après, je comprends, hein, c'est complètement abstrait pour eux ce qui se passe et c'est normal. C'est normal. Oui. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, c'est de voir un petit peu les métiers évoluer. Il y a plein de métiers qui se perdent, on en parle beaucoup, mais il y a plein de métiers qui se créent aussi. C'est ça la beauté, c'est que le monde évolue, le digital prend beaucoup, beaucoup de place plus que jamais. Et c'est hyper intéressant de voir aujourd'hui comment on peut, avec son téléphone, que ce soit chez soi ou dans d'autres pays, comme on était en train de discuter, ouais, pouvoir rassembler du monde, créer du contenu et gagner de l'argent par rapport à ça aussi.
Oui, tout à fait. Moi, je trouve ça incroyable. Hein. On a une chance énorme de pouvoir vivre et grandir avec ces réseaux-là. Et je trouve que les personnes qui sautent, entre guillemets, sur cette opportunité de pouvoir vivre différemment à travers ça, c'est beau.
Et puis de rassembler du monde aussi, des personnes que tu ne connais pas, comme tu le disais, et qui ont les mêmes centres d'intérêt. Puis même, c'est un booster au quotidien aussi de pouvoir échanger avec des personnes sur des plateformes, etc. Bon, moi, ma plateforme, c'est un peu une plateforme de boomer, on va dire, c'est LinkedIn. Mais on peut dire que LinkedIn aussi a un petit peu changé ma vie sur certains aspects, notamment quand j'ai monté ma boîte. Forcément, j'avais déjà une petite communauté sur LinkedIn. Donc juste, tu vois, le soutien d'autres entrepreneurs, c'est... hyper bienveillant au quotidien d'avoir ce type de message, et sans ça, je sais pas si on aurait eu la même évolution, par exemple. Donc pour d'autres créateurs sur TikTok, Instagram, je peux comprendre totalement l'envie de vouloir faire évoluer ces réseaux sociaux là
bien sûr.
Toi, ça serait plus sur TikTok, Instagram, les deux?
Alors moi, je suis plus une... Alors à l'origine, je suis plus une team Instagram.
Ouais.
Mais étant donné que là, récemment, pour notamment le partenariat long terme, je travaille du coup avec eux sur TikTok, je commence à changer de camp un petit peu.
Tu m'étonnes. Moi, j'essaye de passer le moins de temps possible sur TikTok parce que ça a l'air tellement addictif, c'est un truc de ouf.
Ouais. Ça fait peur parfois, le scroll facile.
Tu m'étonnes, non, tu m'étonnes. Moi, quand je vais sur TikTok, c'est vraiment que pour faire de la veille ou pour regarder les vidéos de nos clients. Mais j'essaye le moins possible, parce que déjà, les Reels Instagram, mais je peux me perdre dessus. Ouais. Je m'interdis la journée d'y aller. Donc, j'y vais que le soir, tu vois, journée terminée. Fou. Eh ouais, mais sinon, tu perds un temps fou. Tu perds un temps fou. Mais bon, après, c'est ce qu'on vend aussi aux marques. Donc bon, tant mieux, ça a l'air de fonctionner. Et toi, quel conseil tu pourrais recommander à des personnes qui aimeraient se lancer dans la création de contenu UGC et plus particulièrement qui aimeraient pouvoir voyager dans le monde et atteindre la liberté géographique et financière en étant digital nomade?
Alors moi, je pense que si j'avais un conseil à donner, bon ou pas, je ne sais pas, mais à vous d'en juger, mais ce serait de toujours le faire avec passion, avec envie. Parce que c'est ça qui, finalement, c'est ça qui drive la chose, en fait. Si vous le faites pour les mauvaises raisons, pour l'argent ou parce que vous devez le faire, ça ne fonctionnera pas. Ça se verra et c'est pas ce que les marques, entre guillemets, recherchent. Donc, pour moi, ce serait le conseil principal, le faire avec passion.
Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Et tu disais tout à l'heure qu'il y avait quelques inconvénients, je pense notamment à un gros inconvénient, mais je pense que tu vas le dire. Quels sont les inconvénients selon toi d'être digital nomade et de travailler dans la création de contenu, je sais?
Oula. Déjà, pour Bali, par exemple, la contrainte, c'était la contrainte horaire parce que c'est compliqué de se caler sur ça. Mais parfois, sinon, c'est compliqué en fait de faire la part des choses entre le travail et l'envie, le désir d'aller au coin de la rue pour aller à la plage ou pour aller prendre une glace.
C'est vrai. Moi, je pensais pas à ça. Je pensais surtout au fait pour recevoir des colis. Et surtout à Bali. À Bali, c'est hyper compliqué. Quand tu collabores avec des marques, c'est principalement des marques de produits. Et c'est vrai que les marques, elles n'ont pas forcément envie de payer les frais de transport si tu es à l'autre bout du monde. Et il y a certains pays qui sont plus complexes au niveau de la livraison des colis. Donc toi, comment tu fais justement quand tu as des marques avec lesquelles tu souhaites collaborer mais que tu es à l'étranger?
Alors moi, 99% des marques avec lesquelles j'ai collaboré étaient des marques digitales.
Ouais.
Quand j'étais à l'étranger. J'ai d'ailleurs 2-3 missions qui malheureusement du coup se sont annulées parce que je partais à Bali et qu'ils n'avaient pas pu m'envoyer en fait avant les colis. Mais c'est vrai qu'après, ça dépend encore une fois, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de la marque, de comment est-ce qu'elle est, de comment est-ce qu'elle est développée aussi, est-ce qu'elle est développée qu'en France, qu'en Europe, ou est-ce qu'elle est tout simplement développée un petit peu plus loin, mais c'est vrai que ça peut être un inconvénient, mais encore une fois, ça dépend vraiment de la marque. Moi, j'ai eu 3 contrats qui se sont annulés parce que j'étais partie à Bali, mais j'en ai eu 4 autres parce que j'étais à Bali.
Ok, donc des contrats avec des produits ou c'était des services ?
Alors, c'était des services.
Ouais.
Et en fait, c'est justement, ils se disaient, mais c'est génial, on va pouvoir avoir un background de fou. Enfin, il va y avoir quelque chose de super intéressant au niveau du fond vidéo. Mm-hmm. Et c'est ça qui les ont encore plus enthousiasmés à tourner ces vidéos avec moi.
Trop bien, bah, c'est vrai que tu peux te démarquer parce que s'ils prennent plusieurs créateurs et qu'on est tous dans la grisaille parisienne, ça peut être sympa d'avoir une petite plage paradisiaque à côté. Ouais.
C'est ça.
Et au niveau de ces marques, du coup, tu disais que c'était principalement des services. Est-ce que c'est plus des applications ? Quelle est la typologie des marques qui collaborent avec toi quand tu es à l'étranger ?
Alors, j'avais beaucoup d'applications et de sites web.
Ouais.
J'ai eu il me semble c'était deux produits physiques, mais sinon c'était application et site web.
Bah, notamment un projet qu'on avait fait ensemble, t'étais à Bali je crois, non ? Oh non, je crois que tu rentrais de Bali et t'allais à New York.
Je rentrais de Bali, oui,
ouais,
c'est ça.
Ouais, je crois, ouais. Bah ouais, c'était un service aussi. Ok, bah hyper intéressant.
Mais oui, c'est un très bon exemple parce que du coup cette vidéo-là, j'aurais pu la tourner à Bali.
Exactement, t'aurais pu la tourner vraiment n'importe où, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Hyper intéressant. Mais d'ailleurs, je me demande si il n'y avait pas une marque où on t'avait refusé justement parce que tu étais à Bali. Tu sais, une marque de prêt-à-porter.
Made in France. Si, je crois. Je vous avais dit, faites attention, je pars à Bali. Je ne sais pas si ça va le faire ou pas.
Bah ouais, la marque n'avait pas voulu payer les frais de port qui étaient quand même assez élevés pour Bali.
C'est compréhensible, hein, mais voilà.
Complètement, ouais. Et ils avaient privilégié, vu que c'était une marque française, des créateurs qui étaient en France, etc. Ce qu'on peut totalement comprendre.
Bien sûr.
Et du coup, toi, comment tu envisages la suite au niveau de la création de contenu ? Donc, tu disais que tu aimes bien avoir un pied à terre quand même en France. Est-ce que tu te vois partir plus longtemps ? Comment tu te vois évoluer ?
Alors, c'est sûr que j'aimerais bien pouvoir faire d'autres petits voyages, peut-être un petit peu plus longs, comme là on disait partir plus longtemps à Bali, par exemple 2 mois, c'est déjà bien. Après, je suis quelqu'un qui suis très, très rivée famille.
Ouais.
Mes grands-parents qui sont dans le sud de la France, c'est pour ça que j'ai déménagé de Paris à Cannes. Et du coup, j'ai toujours ce besoin de revenir et ce besoin de pouvoir, entre guillemets, les revoir assez rapidement. Mais je dirais que mes objectifs, ce serait objectif personnel de 2024, c'est de pouvoir réussir à trouver un autre contrat comme je l'ai trouvé en janvier sur du long terme.
Ouais, trop bien.
Peut-être que ça nous assure quand même
ça sécurise les revenus.
Un fonds de revenus, voilà, ce qui est quand même bien, et de continuer du coup à travailler avec certaines marques qui m'ont fait confiance déjà plusieurs fois. Sur plusieurs créations, sur plusieurs campagnes, et tout simplement développer mes réseaux pour essayer de créer une petite communauté bienveillante autour de la création de contenu.
Bah écoute, c'est des beaux projets. Est-ce que tu t'es mis des objectifs en termes de chiffre d'affaires à atteindre, des paliers, etc.?
Oui, alors ma résolution 2024, et encore une fois, je pourrais le montrer sur mon téléphone, mais j'aimerais atteindre un résiduel de 5 000 euros par mois.
Ok, trop bien.
Qui pour moi est réalisable.
Complètement.
Je pense que c'est quelque chose qui est réalisable, enfin je le sais. Du coup, je vais simplement me donner les moyens d'eux. Donc voilà.
Trop bien, bah écoute, c'est pas mal. C'est déjà des bons objectifs, je trouve, pour l'année 2024. Est-ce que toi, l'UGC et potentiellement la micro-influence plus tard, c'est tes seuls revenus ? Ou alors, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de créateurs qui font aussi du community management à côté, ou qui lancent des formations, des produits digitaux. Est-ce que toi, tu aimerais bien un petit peu diversifier tes revenus ? Ou alors, tu préfères te focus à 3000% sur l'UGC et faire exploser l'UGC ?
Alors, j'ai envie de me focus à 90% sur l'UGC pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. Et à côté de ça, par contre, je continue de faire quelques petites prestations. Voilà, par exemple, pour le style de community management que je fais pour une marque et que je devrais peut-être bientôt faire pour une autre marque, mais tout en restant focus sur la création de contenu UGC qui est ce qui m'anime le plus en fait aujourd'hui.
Ok, bah, hyper intéressant. Et en termes de voyage, du coup, tu nous parlais de Bali. Est-ce que dans ta to-do list de 2024, même si ce n'est pas encore prévu, tu as d'autres destinations ?
Alors, on a instauré, entre guillemets, un petit rituel annuel qui est de partir au moment des fêtes. Ouais. Donc, on n'a pas encore choisi notre destination, mais il y en a une qui se sépare un petit peu du lot. Et sinon, on avait bien envie de tenter aussi la Norvège.
Oh, trop bien.
Donc,
trop,
voilà. Trop bien.
Et est-ce que tu veux toujours partir avec ton copain ou alors tu te dis que une petite expérience avec d'autres créateurs de contenu UGC, ça pourrait être hyper sympa justement pour un mois par exemple pour créer du contenu.
Ce serait canon.
Ouais, franchement ça serait pas mal. Même en le disant, moi aussi j'ai eu envie d'être créateur UGC.
Quelle idée de génie j'ai eu. Non ouais, ce serait.
On va créer ça.
Allons-y, créons le projet maintenant.
Qui veut venir avec nous, dites-nous dans les commentaires.
Non, ouais, franchement, c'est une super idée. Et ouais, pour le coup, ce serait hyper intéressant parce que là, déjà, quand je vois que quand on est parti à Bali, bon, du coup, on était un couple, donc on était deux couples, voilà. Et c'était super sympa de pouvoir travailler avec des gens qui sont dans le même domaine, en fait, que nous.
Carrément.
Et c'est super enrichissant parce que du coup, ça pousse notre créativité encore plus, on a envie de faire mieux, on a envie de faire plus, on a des idées ensemble.
Et tu partages, tout
mais
simplement
oui.
aussi.
Et du coup, c'est, je te fais penser à cette idée, mais moi, du coup, ça me fait penser à cette idée, c'est incroyable.
Et puis, même, tu vois, l'aide pour les tournages, etc., parce que parfois, tu as besoin d'être plusieurs sur les tournages, bah, la personne, elle sait comment filmer, elle sait ce que toi, tu désires, etc. Donc, c'est quand même plus pratique que si tu partais avec quelqu'un qui n'était pas du secteur.
C'est ça.
Bah, en tout cas, merci pour tous tes conseils. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager aux personnes qui souhaitent, encore une fois, se lancer dans la création de contenu UGC, mais qui hésitent encore un petit peu ?
Prenez confiance. Et puis, si vous n'avez pas confiance, bah, faites-le quand même parce que ça vous donnera confiance.
Eh bien, écoute, c'est parfait. Merci beaucoup, Leslie, d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était trop cool de pouvoir échanger avec toi. En plus de ça, on a fait quelques projets ensemble, donc trop cool. Hâte de voir les nouveaux projets qu'on va pouvoir faire ensemble. Et puis, merci à vous aussi d'avoir écouté ce podcast. Et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. C'est déjà la fin de cet épisode d'Oser Marketer. J'espère que tu y as trouvé l'inspiration et des actionnables. Si tu as apprécié notre échange d'aujourd'hui, n'oublie pas de me le faire savoir en partageant le podcast et en laissant un avis. Tu es créateur de contenu UGC et tu veux collaborer avec tes marques préférées, alors n'attends plus pour rejoindre le Cosmic Club. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle dose de conseils marketing.